Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Bienvenue dans un mini-zode dans le podcast Femmes d'affaires accomplies. Les mini-zodes se veulent courts, efficaces, droit au but pour te donner le support, la motivation, l'inspiration et la perspective par rapport à mon opinion comme coach d'affaires. C'est les non-dits des coachings, c'est l'extension du coaching, c'est tout ce que tu as besoin pour continuer la motivation dans ta semaine. J'espère vraiment que ces épisodes-là vont t'aider dans la saison 9. J'espère sincèrement que tu vas apprécier et je te souhaite une bonne écoute du mini-épisode de la semaine. Pour m'aider et encourager le podcast, je t'invite à laisser tout de suite un avis. Si tu es sur Spotify, clique sur les trois petits points sur le profil de l'émission. Clique sur « Évaluer l'émission », laisse 5 étoiles. Et si tu es sur Balados ou Apple Podcast, en descendant sur le profil de l'émission, sous le 10e épisode le plus récent, tu vas voir la section « Notes et avis ». Tu peux cliquer sur « Notes et avis ». Et tu peux laisser un petit message en laissant 5 étoiles. C'est un petit geste qui fait toute la différence pour moi et j'adore lire vos commentaires. Mais en plus, pour vous remercier à toutes celles qui vont participer, je vais faire tirer un diagnostic d'entreprise avec moi pour toutes celles qui vont avoir laissé un avis écrit sur Balado. Et je te remercie infiniment déjà de ta participation. C'est d'une valeur de plus de 950$. Alors je te remercie d'encourager le podcast et bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose de tellement important. Est-ce que ton offre est irrésistible? Et on va décortiquer ensemble aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une offre irrésistible. C'est un concept que j'apporte à toutes mes clientes et généralement, c'est la première chose sur laquelle on travaille parce que c'est ce qui rend le travail plus facile pour le marketing, pour les ventes, pour les finances, parce que oui, avoir une offre irrésistible va avoir un impact sur toutes les sphères de ta business. C'est une des fondations qui, selon moi, est vraiment manquée parce que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas nécessairement bien les composante d'une offre qui est irrésistible, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose à comprendre, si ton offre est irrésistible, est-ce que tu peux le déterminer tout de suite rapidement comme ça? Difficile à dire. Souvent, on va se baser sur notre propre jugement. Moi, je l'achèterais, moi, je trouve ça incroyable, moi, je suis tellement passionnée, je suis tellement excitée de cette offre-là. C'est correct, je pense que ça prend un peu de passion, ça prend définitivement de la passion. Plus que juste un peu. Par contre, c'est pas suffisant pour vendre une offre. Tu peux pas juste être passionné de quelque chose. Tu peux pas juste avoir un intérêt ou sentir que toi, tu l'achèterais. Ça va pas nécessairement faire en sorte que tu vas vivre la fluidité que tu veux dans ta business. Ça prend aussi un réel besoin, une demande de client, quelque chose que les gens ont besoin. Puis comment on va rencontrer ça, je vais vous en parler aujourd'hui. Et ça prend un juste milieu des deux. C'est sûr que si t'es pas du tout passionné par qu'est-ce que tu vends, personne ne va y croire. Mais en même temps, si tu es juste passionné, mais personne n'en a besoin, ben tu vas avoir vraiment de la difficulté à le vendre. Tu sais, quasiment à juste le faire par passion parce qu'il n'y aura pas de profit généré derrière ça. Donc, quelle question à poser pour savoir si ton offre est irrésistible? La première chose à regarder, c'est est-ce que tu as un marché assez large? Si tu essaies de vendre un produit à un marché qui n'est pas assez large, ce qui va arriver, c'est que la niche que tu vas cibler va tout acheter ton produit, puis une fois que tu vas avoir vendu à toutes ces personnes-là, tu ne pourras pas croître passé ça. Et aussi, c'est que dans cette même industrie-là, peut-être que tu as des compétiteurs, et donc, non seulement tu vas avoir un marché qui est très petit, mais tes compétiteurs, ça se peut qu'ils vole une partie du marché. Donc, c'est pour ça que choisir une industrie qui est assez large, c'est important. La meilleure façon de le faire, c'est de faire une étude de marché et de regarder, est-ce que dans mon industrie, il y a une croissance? Est-ce que dans mon industrie, il y a une décroissance? Est-ce qu'il y a un nombre associé au nombre de personnes potentiellement susceptibles d'acheter mon produit ou mon service? Et ça, c'est un déterminant majeur. J'avais une conversation avec quelqu'un, une connaissance, qui a une entreprise de produits, en fait. Et ce qu'il se rendait compte, c'est que son produit, qui était technologique, rencontrait un nombre limité d'acheteurs. Donc, il y avait peut-être 10 000 acheteurs potentiels au Québec. Et donc, pour que lui aille chercher les 10 000 acheteurs, non seulement il fallait que les 10 000 acheteurs soient intéressés par le produit, mais il compétitionnait avec un autre fournisseur de ce même produit-là, qui offrait aussi un prix similaire. Donc, il devait faire beaucoup de marketing, beaucoup d'efforts pour aller chercher cette clientèle-là, pour éventuellement atteindre un plateau, parce qu'une fois que les clients ont acheté une fois, il n'y avait pas besoin de racheter une deuxième fois. Donc, c'est là qu'on comprend que le marché n'est pas assez large. On n'a pas assez une grosse clientèle pour bâtir un modèle d'affaires soutenable. La deuxième chose à regarder, c'est la spécificité. Et donc, si tu es dans un marché qui est très large et que tu n'as aucune spécificité, donc tu n'as aucune expertise qui différencie toi d'un autre compétiteur, dans un marché large, il y a beaucoup plus de compétiteurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de demandes. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir plus d'offres. Des food chains, des restaurations rapides. Pourquoi qu'il y en a autant? C'est parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Donc, c'est normal que si tu es dans une industrie où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à servir, tu compétitionnes avec des gros. Et là, quand tu compétitionnes avec des gros, si tu n'as aucune expertise ou de façon de te différencier, ça va être vraiment difficile de percer. C'est pour ça qu'avec mes clientes, ce qu'on essaye de voir, c'est comment on peut se positionner dans un marché où est-ce qu'il y a tellement de compétition. C'est pas nécessairement en essayant de tout faire. C'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui essaient de tout faire parce que je suis dans un gros marché et que les consommateurs ont besoin de beaucoup de choses, je vais essayer de tout faire. Fait que c'est là que tu vois des agences marketing faire des vidéos, des sites web, des ads TikTok, faire la création, la gestion de médias sociaux, faire des pieds et des mains pour leurs clients, de façon non profitable pour arriver à compétitionner avec la demande. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que pour certaines agences, c'est pas la meilleure stratégie. Et aussi, en même temps, en parallèle, d'avoir une spécialité te permet d'être reconnu plus facilement. Ça fait en sorte que tu es reconnu pour quelque chose. Ça veut dire que quand quelqu'un a un problème, la première personne à qui on pense, c'est toi, parce que tu as développé une expertise puis une spécialité que les autres n'ont pas. Encore une fois, ça doit faire partie de ton expertise, puis ça doit pas juste être quelque chose que tu vends pour te démarquer au niveau du marketing. Ça doit être basé sur tes réelles forces. Puis je pense que quand on fait l'exercice, puis qu'on regarde c'est quoi tes forces, c'est quoi qui fait que tu es là ou le meilleur dans ce que tu fais, puis comment tu sers tes clients de la meilleure façon, puis comment tu le fais de façon unique. Il y a plein de subtilités là-dedans, puis il y a plein de façons de se spécialiser puis de se démarquer, mais de faire cet exercice-là va faire en sorte que ton offre va être irrésistible. Donc, est-ce que tu as assez de spécificité et d'expertise pour cibler une partie du marché assez prononcée, donc que tu comprends c'est qui tu sers? Que c'est pas juste « je peux servir tout le monde », puis « monsieur, madame, tout le monde peut venir me voir puis je vais leur offrir des services », absolument pas, c'est pas d'avoir une spécificité à ce moment-là. Une autre chose à comprendre dans cet aspect-là, c'est qu'il faut pas être trop spécifique. Je m'explique. T'es l'entrepreneur geek technologique qui a maîtrisé Notion, OK? Puis toi, là, tu connais Notion comme dans le fond de ta poche. Puis ta spécialité, là, c'est avec des agences. Tu aides les agences avec l'implémentation du système Notion. OK. Fait que là, premièrement, ta spécialité est tellement niche. Ton industrie, oui, elle peut être assez large, mais t'es tellement nichée que, ben, c'est difficile pour les entrepreneurs de peut-être voir la valeur. Peut-être certaines personnes qui utilisent Notion ou qui connaissent Notion vont voir la valeur de ton service, mais c'est tellement niché que c'est trop niché qu'on rapetisse vraiment l'industrie puis qu'on limite vraiment le potentiel de croissance. Donc, il faut faire attention de pas trop se nicher ou trop se spécialiser, qu'on se coupe carrément d'une partie du marché. La troisième chose, est-ce que tu règles un problème ou tu vends un désir? Ni un est meilleur que l'autre, mais c'est toujours plus facile de vendre un vrai problème que de vendre un désir. Vendre un vrai problème égale « j'ai un problème dans mon couple, ma relation amoureuse ne va pas bien, je dois avoir de l'aide pour la fixer ». Un vrai problème, c'est « j'arrive pas financièrement, je sais pas comment faire, j'ai besoin d'aide, quelqu'un, un comptable, un conseiller financier, j'ai besoin d'aide avec mes finances, ou peu importe, j'ai de l'argent, je sais pas quoi en faire, je sais pas comment l'investir, un réel problème. J'ai un surplus de poids, j'ai une problématique au niveau de mon dos, j'ai des tensions musculaires, une réelle problématique, quelque chose qui nous nuit au quotidien, quelque chose qui fait qu'on se réveille la nuit puis on fait « j'ai ce problème-là, je dois le régler ». C'est plus facile vendre ça parce que le client est conscient de son problème. C'est pas comme « oh, ça serait le fun que un samedi matin avec un café ». C'est « à chaque jour, je me réveille, puis je sais que j'ai ce problème-là, je sais pas comment le résoudre. Ça me prendrait quelqu'un qui m'aide avec ça ou je sais pas encore c'est quoi la solution, je connais pas de solution par rapport à ça ». Et là, ça veut pas dire que t'es obligé de régler des problèmes qui existent pas ou qui sont pas encore rencontrés, mais ça l'aide. Fait que si tu vois un trou dans le marché ou par exemple que tu réalises qu'il y a une façon de le livrer qui est pas encore livrée dans le marché. Prends par exemple MQ Consultation, j'ai ouvert un club qui organise des activités inclus dans mon accompagnement avec mes clientes sur le long terme. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui offraient des activités qui étaient payante, qui était en plus de, qui offrait des retraites, qui offrait ce genre de choses-là. Puis moi, j'ai juste décidé comme, OK, je mets ça à l'intérieur de mon accompagnement de coaching sur le long terme avec mes clients. Donc, c'est une façon de livrer. C'est pas nouveau de créer des événements en personne, mais la façon dont on livre est unique et différente et comble un besoin. Donc, quand on voit ça de cette façon-là, quand on règle un vrai problème, une vraie problématique, c'est pas juste « ça serait le fun que », c'est beaucoup plus irrésistible comme offre que ça serait le fun que. J'ai bâti MQ Consultation en écoutant les besoins de mes clientes, en écoutant des besoins qui me disaient « Hey, ça serait le fun de se voir, ça serait le fun de voir du monde, ça serait le fun de sortir des Zooms. » J'écoute, j'ai pris des notes, j'ai adapté le service. Je sais pas comment, avec la technologie, j'ai de la misère, je suis pas capable d'implémenter les systèmes, tes formations sont claires, mais j'ai vraiment besoin d'aide à l'implémenter. Parfait. J'ai offert des services d'implémentation. On peut implémenter des systèmes dans ta business sans problème. On peut programmer, on peut intégrer, on peut installer un pixel, on peut faire ce que tu veux. Donc, d'être capable de voir un besoin puis de régler un vrai problème, pas juste un désir, c'est important. Le désir, comment il est vendu, c'est correct d'avoir des produits luxueux, mais c'est pas du tout de la même façon qu'on le vend. Un produit de luxe, c'est pas un besoin, c'est un désir. Donc, la façon qu'on va faire le marketing va être complètement différente et c'est plus difficile à le maîtriser de vendre un désir, de vendre du luxe, parce que c'est pas un besoin. Donc, il faut être excellent en marketing, il faut être excellent sur qu'est-ce que les clients aspirent à aspirer comme identité. Donc, on doit être vraiment, vraiment maître du marketing. Et des fois, ça n'a rien à voir avec être maître de l'offre en tant que telle, c'est juste comment on va bâtir le brand, comment on va bâtir la marque, comment on va bâtir la notoriété qui, des fois, n'a même pas rapport avec le produit en soi. On s'entend, une paire de Nike versus un sac Hermès, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? À cause du brand. C'est la seule chose qui différencie. Le produit, oui, est de qualité, mais tu sais, y a-tu une si grande différence que ça? C'est le brand. Donc, c'est ça la différence entre un désir et vendre un besoin. C'est beaucoup plus difficile à vendre un désir qu'un besoin. Donc, souvent, ce que je conseille mes clientes de faire, c'est est-ce que tu résous un vrai besoin ou c'est un désir en ce moment? Si c'est pas un désir brûlant, ça va être plus difficile à vendre. Est-ce que la transformation de ton produit est claire? Le avant et le après. Ton client avant toi, ton client après toi. Si ça, c'est pas totalement clair, t'as pas une offre qui est irrésistible. Pourquoi? Parce que si on comprend pas le avant-après, on va pas nécessairement comprendre la valeur ajoutée. Et donc, ça peut être un besoin que j'ai. Ah oui, c'est cool, je rencontre un besoin, mais je vois pas nécessairement la transformation avant-après. Donc, peu importe ce que le client va payer, il va pas sentir qu'il y en a pour son argent. Donc, il faut toujours que la valeur reçue excède la valeur perçue. Si, exemple, moi, je vais payer 1 000 $ pour des cours de fitness pendant mon année. Mais j'ai l'impression que, pour vrai, ça me fait sauver du temps. Je sais que j'ai des résultats, je sais que je vais être motivée, je sais que je vais avoir plus d'énergie. J'ai l'impression que ça vaut au moins 2 000. Mais c'est toujours ça qu'on veut. Donc, la transformation avant-après est très claire et le client le sait et comprend la valeur. Donc, il a l'impression qu'il paye pas assez cher. C'est tout le temps ça qu'on veut créer comme feeling éventuellement dans son offre. Une autre chose qui est super importante par rapport à la valeur, c'est que si ton offre est profitable, tu as une offre qui est irrésistible. Ça veut dire que tu es capable de charger plus cher que qu'est-ce que ça vaut. Donc, que tu es capable de pouvoir faire du profit sur une grande échelle. Donc, tu offres un service, ton client paye plus cher que qu'est-ce que ça te coûte le faire et tu as donc plus de profit. Et c'est ce qui fait qu'une offre est irrésistible parce que le client est prêt à payer ce prix-là. Même si c'est peut-être plus cher que le marché, même si c'est peut-être plus cher qu'un compétiteur, à cause qu'il en retire plus de valeur que qu'est-ce qu'il sent qu'il paye. Il est prêt à payer plus cher pour ça. Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ça. Des fois, c'est la rareté, donc il y a un nombre de places limité. Je sens que j'en ai plus que pour mon argent. La demande est quand même élevée, donc je veux absolument avoir cette place-là. C'est un des signes qui peut faire en sorte qu'on a beaucoup de profitabilité parce que le service ou le produit est en demande. Ça, c'est un des facteurs, mais si tu es profitable, si tu as une grande marge de profit, c'est un des signes que ton offre est irrésistible. L'avant-dernière chose, est-ce que tu es capable de reproduire ce résultat-là, cette satisfaction-là et ce service-là, mettons qu'on parle de service, sur une grande échelle? Est-ce que tu es capable de dupliquer ça pour 10, 20, 30, 40, 50, 100 clients? Si oui, tu as une offre qui est irrésistible. Ça s'applique pas à tous les contextes. Dans d'autres contextes, ça va être plus est-ce que tu es capable de faire revenir tes clients? Donc, est-ce que tes clients viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, renouvellent? Et à partir de là, tu as une récurrence. Si c'est le cas, plus que tu t'en vas vers la récurrence, plus que tu t'en vas vers les clients reviennent, plus que tu as une offre qui est irrésistible. Ça s'applique pas à tout le monde, mais d'être capable de dupliquer puis d'être capable aussi de créer ces récurrences-là au niveau du chiffre d'affaires, c'est vraiment un signe que tu as une offre qui est irrésistible parce que les gens le veulent encore et encore et encore et encore. Et j'ai failli oublier la dernière chose importante qui va changer la game. Si tu as une offre qui est irrésistible, si tu as une offre que les gens veulent absolument avoir, ils vont te recommander à leurs amis. Ils vont pas vouloir garder le secret pour eux-mêmes. Quand j'ai un gloss que j'aime, je le partage à tout le monde. Quand j'ai un produit pour mes cheveux qui m'aide à avoir des cheveux glossy, healthy, je le partage à toutes mes amies. Pourquoi? Parce que je veux que mes amis aillent le meilleur. Donc, un des signes que ton offre est irrésistible, c'est que les gens te recommandent. Les gens te réfèrent. T'as pas besoin de leur demander, ils te réfèrent à leurs amis, ils te réfèrent à ceux qu'ils croient qu'ils vont en bénéficier, à leur audience, etc. Donc, si en ce moment, tu as pas de recommandation ou de référence client, c'est le temps de regarder ton offre. C'est le temps de te demander, est-ce que j'ai une offre irrésistible? C'est beaucoup plus facile de bâtir une entreprise quand t'as une offre irrésistible puis que t'as des références clients. C'est quelque chose qui te coûte pas cher, c'est quelque chose qui se duplique infiniment, puis c'est ce qui va bâtir le brand le plus. Donc, j'espère que t'as aimé cette capsule-ci, j'espère que c'est plus clair pour toi comment bâtir une offre irrésistible. C'est quelque chose que je fais avec mes clientes, c'est une des raisons pour lesquelles mes clientes ont beaucoup de succès, c'est qu'on les aide à bâtir cette offre-là, puis on les aide à l'améliorer à travers le temps pour qu'elles continuent de faire plus d'argent, qu'elles continuent de croître leur entreprise le plus aisément possible. Donc, si t'es intéressé, la meilleure étape pour commencer à travailler ensemble, c'est le diagnostic. Tous les détails sont dans la description du podcast et on se retrouve pour le prochain épisode. Bonne semaine! Merci infiniment d'être une fidèle auditrice. Je suis tellement reconnaissante de ton support, de ton intérêt pour le podcast Femmes d'affaires accomplies. Et si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la continuité sur le groupe Facebook. C'est Femmes d'affaires accomplies avec Amélie Riendeau. À chaque semaine, le vendredi midi, je fais un live exclusif à ma communauté. Je réponds à tes questions, je réponds à des questions que j'ai en live. Je connecte avec vous. C'est vraiment un bonbon dans ma semaine. J'aime ça être avec vous en live, puis connecter avec vous, apprendre à vous connaître. Je donne une tonne de contenus gratuits qui sont pas sur le podcast. Donc, sois pas gêné, viens te connecter avec moi, viens me poser des questions en live le vendredi ou viens l'écouter en replay. Puis, je te laisse le lien pour rejoindre le groupe Facebook gratuitement dans la description du podcast. Encore une fois, merci Queen d'être là. Merci d'être parmi plusieurs milliers de personnes qui téléchargent le podcast. T'es vraiment importante pour moi, puis je te souhaite une magnifique semaine.